RCF. Face aux intolérances et aux extrémismes religieux, des hommes et des femmes ont choisi de s'engager dans un travail scientifique, historique, historico-critique sur les textes et les origines des religions. Mohamed Ali Amir Mouezi, cela fait plus de 40 ans que vous êtes engagé dans cette voie. D'origine iranienne, vous vivez et travaillez en France depuis les années 70. Vous avez succédé à Louis Massignon, Henri Corbin, comme directeur d'études en islamologie classique à l'école pratique des hautes études. Vous êtes l'un des spécialistes mondiaux des origines de l'islam et du chiisme en particulier. Vous avez dirigé le Coran des historiens, un ouvrage monumental de plus de 3400 pages, considéré comme une somme des connaissances actuelles en matière d'histoire de l'islam. Et vous avez été nommé récemment président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie, fondé en février 2022 par la volonté du président Emmanuel Macron. Alors, avant de découvrir avec vous les origines de l'islam, le contexte de l'apparition de l'islam et du Coran, j'aimerais que vous nous expliquiez la mission fondamentale de l'Institut français d'islamologie.
L'Institut français d'islamologie a été fondé sur un souhait du président de la République, Emmanuel Macron. Et l'idée, je pense, s'est germée dans son esprit après la tragédie de Samuel Paty. Donc l'assassinat de Samuel Paty. Donc le président a demandé à plusieurs personnes, disons appartenant au monde académique, ce qu'on peut faire pour rendre service en quelque sorte aux chercheurs et aux musulmans dans un contexte académique. Et donc plusieurs d'entre nous lui ont conseillé d'essayer de promouvoir l'étude scientifique de l'islam. Et donc c'est à la suite de ça que en 2022, l'Institut français d'islamologie a été fondé au sein du ministère de l'enseignement supérieur, dont l'objectif est la promotion, le développement de l'étude scientifique de l'islam, c'est-à-dire de faire de l'islamologie. Et donc cet institut dont je suis le président du conseil scientifique et qui est présidé par le recteur Claudio Galderisi et dont le directeur est le philosophe Pierre Quay, directeur de recherche au CNRS, a plusieurs missions. D'abord créer des postes universitaires et je dois dire qu'on en a créé une douzaine depuis 2 ans, donc des postes de professeurs et de maîtres de conférences. C'est de financer des projets de recherche d'excellence en islamologie.
Parce que cela n'avait pas lieu ou n'était pas assez développé.
Ça n'existait pas.
Ni en France, ni dans le reste du monde.
Ni à ma connaissance ailleurs. Et vous savez, ça fait maintenant 40 ans que je suis dans le milieu universitaire, que j'enseigne. Et si on y ajoute le temps de mes études, ça fait un demi-siècle. Je dois dire que l'Institut français d'islamologie est le plus grand don de l'État à l'étude de l'islam en France que j'ai connu. Ça n'a jamais existé. Donc, comme je disais, création de postes, financement des projets de recherche, bourse aux étudiants.
Est-ce qu'il y a urgence, selon vous, de mener un travail scientifique, un travail historico-critique, comme l'on dit, sur l'islam, les origines du Coran, les origines de l'islam?
C'est-à-dire, ce travail existait, bien sûr. L'islamologie française est une des meilleures au monde, et depuis, je dirais, plus d'un siècle. Mais je pense qu'il y avait urgence à le développer. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec le départ à la retraite ou le décès des grands islamisants, des grands islamologues, donc il y avait urgence à renouveler ces postes-là, parce que très souvent, ces postes disparaissaient avec le départ de leurs détenteurs. Et donc, effectivement, il y avait de moins en moins de postes consacrés à l'islamologie, j'entends par là, c'est-à-dire l'étude de l'islam dans ces disciplines fondamentales. Je ne parle pas de l'islam contemporain, de l'islam politique, de la sociologie de l'islam contemporain, etc. Je parle des disciplines fondamentales, c'est-à-dire la théologie, la mystique, la philosophie, l'étude du Coran, l'exégèse coranique, le droit, etc.
Et alors, vous ne craignez pas que certains vous disent, mais pourquoi ce sont des scientifiques et des scientifiques occidentaux, pour la plupart, qui font ce travail et non pas des musulmans? Alors vous êtes une exception, vous êtes d'origine iranienne, vous êtes musulman, mais la majorité des grands chercheurs scientifiques aujourd'hui, si je ne m'abuse, sont des occidentaux.
Alors, non, c'est-à-dire, je dirais que à part moi, il y a d'autres chercheurs et d'autres enseignants dans l'université française qui sont d'origine musulmane. Bon, je ne sais pas s'ils sont musulmans, s'ils sont croyants, pratiquants, ça ce n'est pas notre affaire. Il y en a d'autres. Mais ce qui est important, et j'infléchirai votre question dans ce sens-là, c'est que effectivement, il s'agit de faire de la recherche et d'enseignement sur l'islam selon les méthodes que je dirais occidentales. Ce sont des méthodes occidentales, donc les méthodes fondées sur la philologie et l'histoire. Et ça, l'histoire a fait que ces méthodes sont nées et ont été développées en Occident. Donc, je pense que effectivement, justement, pour avoir peut-être une approche distanciée et autant que possible objective de l'objet, c'est-à-dire de l'islam, il ne faut pas avoir une approche confessante. Il faut avoir l'approche peut-être distanciée et froide de l'historien.
Vous voulez dire, Ali Amir Moezi, que ce travail qui a été mené sur le christianisme depuis le 19e siècle pratiquement, ce qu'on appelait ce travail historico-critique sur la Bible, doit être mené sur le Coran et qu'il n'a pas été mené actuellement suffisamment?
Oui, et pas seulement sur le Coran, mais surtout la culture, la civilisation islamique dans toute sa richesse
donc
et dans toute sa diversité.
Donc l'histoire de la naissance du Coran, sur les hadiths.
Oui, et d'ailleurs, les islamisants se sont inspirés par ce qu'on appelle les méthodes de la critique biblique, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, comme je vous le disais, c'est une aventure intellectuelle qui a commencé en Occident et plus tôt que le 19e siècle, c'est-à-dire bon, l'origine remonte peut-être aux exégèses bibliques de la fin du Moyen-Âge et ensuite à la Renaissance, à l'humanisme, à l'approche, effectivement, à la naissance de l'approche philologique et historique des choses, des écrits juifs et chrétiens. Et donc, cette méthode ou ces méthodes sont nées en Occident. Et ce sont ces méthodes-là qui ont permis, en quelque sorte, cette approche non confessionnelle qui a permis quand même des avancées extraordinaires dans l'étude des religions. Et ce qui est important, c'est que, si vous voulez, bon, ça a posé problème, bien sûr, aussi en Occident, aux croyants pendant un certain temps, mais finalement, je crois que ça a été intégré même par les croyants juifs, chrétiens. Et donc, c'est-à-dire que ces croyants-là ne voient pas dans ces méthodes-là une menace pour leur foi, ce qui n'est pas peut-être encore le cas pour les musulmans.
Visage RCF.
Ali Amir Moezi, merci d'avoir accepté ce défi énorme que je vous ai demandé en une heure d'essayer de nous donner des éléments clés, fondamentaux, pour comprendre justement le travail qui est le vôtre, cette analyse historico-critique du Coran, des origines du Coran, des origines de l'islam. Alors, vous allez nous donner quelques clés pour comprendre déjà d'abord dans quel contexte est né l'islam. Il n'est pas sorti de rien, ex nihilo. Pouvez-vous nous aider à comprendre 7e siècle en Arabie Saoudite, Mahomet est là. Dans quel contexte arrive-t-il ?
D'abord, c'est moi qui vous remercie de votre invitation, Thierry Lyonnais, et de votre accueil. Alors, peut-être avant l'islam, parce que l'islam, je dirais, est postérieur à la mission prophétique de Mahomet et à son message prophétique qu'on appelle le Coran, un peu plus tardif. Le Coran, commençons par le Coran, est né effectivement en Arabie, aux confins du 6e et 7e siècle de notre ère. Et contrairement à ce que dit l'apologétique musulmane, qui présente l'Arabie pré-islamique comme une terre de paganisme, de ténèbres, d'ignorance, où les gens adoraient les arbres, les cailloux, les bétiles, contrairement à ce qui est dit, cette terre est une terre monothéiste depuis des siècles et des siècles.
Avec une forte présence de juifs et de chrétiens.
Et surtout de chrétiens. C'est d'ailleurs les chrétiens à cette époque sont de loin majoritaires. Donc, ce qui est normal, c'est que, c'est-à-dire bon, ce que dit la tradition musulmane plus tardive, hein, c'est de l'apologétique. Hein, tout le monde dit la même chose. Avant nous, il n'y avait rien. Après nous, il y a tout. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire ça a été démontré par des fouilles archéologiques, par des données épigraphiques, codicologiques, etc. Et surtout par le Coran lui-même. Et j'y reviendrai. Que cette religion, ou en tout cas ce message prophétique, est né dans un milieu qui est monothéiste depuis des siècles. Ce qui est normal, c'est que les Arabes, qui sont des commerçants et des caravaniers depuis la nuit des temps, circulent entre les grandes civilisations antiques, la Byzance au nord, le Yémen au sud, l'Iran à l'est, l'Éthiopie et l'Égypte à l'ouest, et ce sont des civilisations et des cultures monothéistes depuis des siècles.
Donc sur ce chemin des caravaniers, il y a des villes déjà qui existent, Médine, La Mecque, et dans ces lieux-là, il y a des communautés chrétiennes, juives qui existent.
Et depuis fort longtemps, dans les caravanes, comme on sait, on ne transporte pas seulement les marchandises, mais également des hommes, des livres, des croyances, des religions. Et effectivement, cette terre est imprégnée, hein, et appartient à ce qu'on pourrait appeler la tradition biblique. Alors, lesquelles, ça, on le sait peu, parce que les choses sont plurielles, à quel judaïsme, à quel christianisme, parce que les christianismes sont divers et pluriels.
Oui, il y avait les nestoriens, les ariens, il y avait plusieurs courants.
Oui, ce qu'on appelle les christianismes orientaux. Également, peut-être, des judo-chrétiens, les manichéens, qui appartiennent aussi à la tradition biblique, et du côté iranien, les zoroastriens, bon, ce n'est pas la tradition biblique, mais ce sont des monothéistes. Et comme je le disais également, la preuve la plus évidente de tout cela, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire que si vous regardez le Coran, à côté de quelques données rares sur l'Arabie pré-islamique païenne, sur quelques idoles de l'Arabie païenne, et quelques prophètes, deux ou trois prophètes proprement arabes, le reste du Coran, c'est-à-dire des milliers de références à des choses bibliques. Chaque page de Coran est remplie soit des figures bibliques, hein, ça va de Adam et Ève jusqu'à Marie, Jésus, Jean-Baptiste, en passant par Noé, Job, Jonas, Salomon, David, Moïse, Abraham, des personnages absolument centraux du Coran, et Jésus.
Mais ça veut dire que Mahomet appartenait à une de ces traditions religieuses avant sa révélation?
Alors très probablement, c'est-à-dire que nous avons une réelle spiritualité dans le Coran, et cette spiritualité n'est pas née du néant, hein, elle ne tombe pas du ciel. Alors là aussi, contrairement à ce que nous dit l'apologétique musulmane, très probablement Mahomet, mais également toute l'Arabie, appartenait à cette tradition. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas très exactement quelle tradition, mais on peut affiner les choses, et on a essayé de l'affiner dans le Coran des historiens et ailleurs. Bien sûr, ces gens-là appartiennent à une tradition, et je dirais savante, une tradition savante appartenant donc à la culture biblique.
Donc, mais on ne sait pas laquelle. On ne sait pas si c'est proche du judaïsme.
Plus ou moins, on sait, c'est-à-dire que il y a quand même des données juives assez nombreuses. Dans le Coran, il y a des données chrétiennes. Je vous donne un exemple, c'est que, par exemple, la christologie coranique. La christologie coranique, d'abord, il faut savoir que, même la mariologie, hein, le Coran parle plus de Marie que l'ensemble des évangiles synoptiques. Il y a toute une sourate, un chapitre de Coran qui s'appelle Marie, hein, Mariam. Alors, là aussi, Jésus, un personnage absolument central du Coran, à chaque fois que le Coran parle de lui, dit Jésus, le Christ, le Messie, le Messie, fils de Marie, esprit de Dieu, verbe de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le Coran reconnaît que Jésus est le Christ. Cette insistance sur le fait qu'il est fils de Marie, c'est pour ne pas dire fils de Dieu. C'est pour ça la présence de Marie. Et en même temps, reconnaissance du fait qu'il est verbe de Dieu et esprit de Dieu. Une notion christologique extrêmement compliquée que le Coran n'explique pas. C'est-à-dire que son auditoire connaît ces expressions, qui sont des expressions compliquées. Sinon, c'est complètement absurde, n'est-ce pas, de parler ça. Donc nous avons affaire à une christologie qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus.
Mais qui est complètement dans l'esprit des différents courants chrétiens de l'époque, parce que les grands conflits des synodes étaient autour de la personne de Jésus.
Absolument.
Qui était-il?
Et puis de sa double nature. Ouais. Hein,
c'était humaine. Le grand débat des nestoriens, des...
Oui,
de l'arianisme.
Des arianistes, des montanistes, des monarchianistes. Donc, c'est-à-dire cette christologie coranique n'a rien de exclusivement coranique ou arabe. C'est une christologie qui existe, comme vous venez de le dire, dans des courants, mais qui sont considérés comme hétérodoxes par la grande église catholique de Constantinople, de Byzance. Et donc, mais on retrouve donc cette christologie dans le Coran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
Alors Ali Amir Moïsi, pourquoi Mahomet va-t-il se détacher des deux autres monothéismes et va-t-il fonder une autre religion monothéiste?
Alors je ne pense pas que, c'est-à-dire on ne voit pas ce détachement dans le Coran. Le Coran se présente comme un prolongement justement du message de Moïse, c'est-à-dire la Bible hébraïque en quelque sorte, et du message de Jésus, c'est-à-dire la Bible chrétienne. Ça, il le dit assez souvent. Et comme je vous l'ai dit, Moïse et Jésus sont des personnages absolument centraux dans le Coran.
Ce n'est pas une rupture. L'islam des origines, en tous les cas, est présenté...
Le Coran. Appelons-le le Coran. Peut-être pas encore l'islam.
Pourquoi faites-vous cette différence entre le Coran et l'islam?
Parce que l'islam est le nom d'une religion qui va naître après quelques décennies, bon, très tôt, mais quand même quelques décennies, après la mort de Mahomet. Dans le Coran, l'islam, le mot islam existe, mais ce n'est pas le nom propre d'une religion. D'ailleurs, c'est le nom de la religion d'Abraham, c'est-à-dire une religion universelle de soumission à Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, si on regarde la terminologie coranique, l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu, est inférieur à iman, c'est-à-dire la foi. Les fidèles de Mahomet ne sont pas appelés des musulmans, mais des croyants, les gens de la foi, les fidèles en quelque sorte, et ce sont très probablement des monothéistes et qui professent trois choses, l'unicité de Dieu, le prophétisme, c'est-à-dire le fait que Dieu parle de temps en temps à une personne privilégiée qui transmet son message, le message de Dieu
donc
à sa communauté.
Tous les prophètes donc ça inclut tous les prophètes passées.
Donc l'unicité de Dieu, le prophétisme et le jugement dernier, c'est-à-dire le fait que les hommes seront récompensés ou châtiés selon leurs actes.
On retrouve dans le judaïsme et dans le christianisme.
Effectivement,
donc jusque-là, je dirais presque rien de nouveau.
Oui, c'est-à-dire ces trois éléments constituent ce qu'on appelle la profession de foi coranique, mais dans lesquels se reconnaît tout juif et tout chrétien. Donc il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de rupture par
Alors,
rapport au
qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette révélation qu'apporte Mahomet?
Alors, nouveau, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que le Coran ne cherche pas l'originalité. Hein. Mm-hmm. Vous savez, on ne peut pas parler du Coran comme étant un livre cohérent, un livre. Ce n'est pas un livre, c'est un corpus. C'est-à-dire, c'est un ensemble de textes qui sont extrêmement différents dans leur forme, c'est-à-dire leur style. Le style coranique n'est pas uniforme. Dans leur forme et aussi dans leur contenu. Nous avons des genres littéraires différents, nous avons des prières, des hymnes, nous avons des parties juridiques, nous avons des histoires, des contes de prophètes. Et peut-être ce qui est propre au Coran, c'est sa couche la plus ancienne, parce que la langue est très archaïque, l'arabe, c'est la partie qu'on appelle apocalyptique. l'apocalypse coranique, c'est-à-dire les 30, à quelques exceptions près, les 30 ou 35 dernières sourates, chapitres du Coran, qui parlent de la fin imminente du monde.
Ça, pour vous, pour les chercheurs, c'est la partie la plus ancienne, la plus originelle?
Oui, je crois que c'est quelque chose sur lequel les chercheurs sont assez unanimes et depuis très longtemps. C'est la partie la plus ancienne du Coran, rien que par sa langue. Et ce sont les sourates les plus courtes, qui sont des sourates apocalyptiques qui annoncent la fin imminente du monde. Et en quoi consistent ces chapitres? C'est-à-dire, il y aura des bouleversements cosmiques sur Terre, au ciel, et donc la fin arrive, et le Coran invite les hommes à se repentir, à être bons les uns envers les autres, à prier, à jeûner, à payer l'aumône, pour être épargné par la colère de la colère de Dieu.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a déjà trouvé dans l'Ancien Testament, dans la Torah juive, avec les prophètes, avec l'annonce par Jean-Baptiste aussi?
Oui, c'est-à-dire effectivement aussi bien la Bible juive que la Bible chrétienne contiennent des parties apocalyptiques, et surtout le message de Jésus contient aussi une partie apocalyptique importante. Et ça, on retrouve dans le Coran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, c'est-à-dire qu'en fin 6e, 7e siècle, on a l'impression que dans toute la région et dans toutes les religions, tout le monde pense que la fin est proche. Parce que nous avons, contemporains du Coran, des apocalypses juives, deux en hébreu. Nous avons deux apocalypses zoroastriennes, donc en moyen perse, qui sont de datation un peu douteuse, mais quand même plus ou moins contemporain. Et puis, vraiment contemporain du Coran, des écrits apocalyptiques chrétiens, surtout en syriaque, nous avons beaucoup, et qui sont extrêmement proches, même dans leur forme, du Coran. C'est-à-dire, nous trouvons cette question des bouleversements cosmiques, des catastrophes, et l'invitation des hommes au repentir, à l'aumône, à la prière, à la bonté, etc. Donc, de ce point de vue-là, au moins, cette partie-là du Coran appartient véritablement à son temps et à son époque. Et pourquoi cette ambiance de fin du monde? Parce que il y a une ambiance de fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a des guerres entre les deux grands empires de l'époque, les Iraniens, Sassanides, et les Byzantins. Depuis très longtemps, il y a des guerres, donc avec leur lot de massacres, de déportations des populations, des maladies, les jeunes qui partent et qui ne reviennent pas, des taxes. Il y a des épidémies, surtout de peste. La peste d'Emmaüs est bien connue des sources chrétiennes. Il y a des éclipses de soleil et de lune, ça on le sait par des données astronomiques. Par des données géologiques, on sait qu'il y a eu des tremblements de terre absolument meurtriers. Un des chapitres du Coran s'appelle justement le séisme, et c'est un chapitre apocalyptique. Donc, en tout, il y a une ambiance de fin du monde, et ça se reflète dans ces chapitres coraniques.
Visage, Thierry Lyonnais.
Ali Amir Mouezi, j'aimerais qu'on parle de la naissance du Coran, de la création du Coran. Parce que, à ma connaissance, Mahomet ne savait pas lire, écrire. Il n'a rien écrit, d'après ce que l'on dit. Donc, comment d'un enseignement oral, qui a été le sien, c'est-à-dire la transmission orale de sa révélation, on en est arrivé à la construction d'un corpus qui est très important aujourd'hui pour les musulmans, qu'on appelle le Coran?
Alors, d'abord, l'illettrisme de Mahomet est également une donnée apologétique. Ça, c'est-à-dire même dans la tradition islamique elle-même, nous avons des données qui montrent que Mahomet n'était pas illettré. Alors pourquoi l'apologétique musulmane le dit? Parce que ça augmente le caractère miraculeux du Coran. Donc un homme illettré reçoit la révélation et donc il ne peut absolument rien ajouter de son propre chef à cette révélation. Donc tout ce qui est là est la parole de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a également dans la tradition islamique des récits qui nous disent que le prophète n'était pas illettré. Et d'ailleurs, on le voit également, comme je l'ai dit au début de notre entretien, on voit que nous avons affaire, avec Mahomet et son entourage, à une communauté qui a des informations extrêmement précises, je dirais savantes, sur les cultures ambiantes. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a des sous-textes, Il y a des parties, des passages du Coran qui sont comme des, je dirais pas des traductions, ça n'existe pas dans le sens moderne du terme, mais des paraphrases de textes préexistants, juifs et surtout chrétiens de langue syriaque. Et l'analyse et l'examen minutieux de ces passages montrent que les rédacteurs de ces passages-là avaient une connaissance livresque, écrite de ces textes-là. Donc nous avons affaire à des gens qui connaissent les écrits, qui connaissent probablement d'autres langues. Il y a de plus en plus d'études sur le bilinguisme des Arabes. Hein. Donc nous changeons complètement de perspective.
L'arabe et l'araméen.
Et l'araméen, surtout le syriaque, ou l'arabe et l'hébreu, ou l'arabe et le grec. Nous avons des inscriptions sur pierre, en bilingue, arabe et grec, ce qui est normal, je dirais, pour des commerçants. Hein, ce sont de grands businessmen, hein, on dirait. Et c'est très normal, c'est-à-dire qu'ils avaient des relations internationales. Et donc, c'est normal que les couches, peut-être les traits des Arabes, aient été bilingues.
Mais comment a été rédigé le Coran ? Alors aussi, c'est pas un livre qui est arrivé, unifié une fois pour toutes, le Coran que nous connaissons aujourd'hui, et là il nous faudrait des émissions entières pour parler de cette évolution, mais a été constitué progressivement, en tous les cas au 7e siècle.
Oui, alors là, la tradition islamique en parle elle-même, c'est que donc le prophète recevait au fur et à mesure la révélation, et il dictait donc ces révélations à ses scribes. Et donc, ces scribes mettaient par écrit, sur toutes sortes de supports, ce que leur dictait le prophète, et peu à peu, effectivement, c'est constitué un certain nombre d'écrits qui ont été édités, entre guillemets, hein, après la mort du prophète. Donc là aussi, il y a des récits qui sont divergents. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, donc, c'est que la publication écrite, c'est-à-dire les écrits rendus publics du Coran, date des décennies qui ont suivi la mort du prophète.
Donc, je rappelle, la mort du prophète, c'est 632.
Voilà.
Donc, les décennies qui ont suivi ont permis de constituer ce corpus qu'on appelle le Coran.
Oui. Alors, selon la tradition, disons, orthodoxe, entre guillemets, islamique, le Coran que nous connaissons a vu le jour sous le califat du troisième calife, donc du troisième successeur du prophète, donc juste quelques décennies après sa mort, Osman. Mais d'après, disons, la plupart des spécialistes, ça s'est réalisé plus tard, pas beaucoup plus tard, mais quand même à la fin du premier siècle de l'Égypte, donc à une époque quand même très ancienne, mais quand même bien après la mort du prophète, sous le cinquième calife Omeyyade, donc le huitième après le prophète, le calife Abdelmalek, qui est un personnage extrêmement important. Mais entre-temps, il est arrivé des événements extrêmement importants qui ont certainement eu une influence sur l'élaboration du Coran, c'est-à-dire la mort du prophète, les guerres civiles entre ses fidèles, les grandes conquêtes arabes et la mise en place d'un empire, c'est-à-dire des événements qui ont changé la face du monde.
Et tout ça très très rapidement.
Et très très rapidement. Et donc le Coran a été élaboré, sa rédaction a été réalisée en même temps que ces événements extrêmement importants.
Mais Ali Rami Mouezi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs Corans avant que Osman unifie ces textes, les impose, enfin crée pratiquement ce qu'on pourrait appeler une vulgate, la vulgate ousmanienne?
Certainement. Là aussi, aussi bien la tradition islamique que la tradition scientifique le montrent, il y avait plusieurs Corans, différents dans leur forme et dans leur contenu. D'ailleurs, la tradition islamique dit que Osman, en imposant sa version unique, donc la Vulgate, a supprimé, a détruit les autres versions. Là aussi, bon, peut-être il faut ramener tout cela à l'époque de Abdelmalek, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir califal a réussi à supprimer ces Corans différents, je dirais, du Coran, ce qu'on appelle la Vulgate, mais qui est en fait le Coran califal.
Et ça, on le sait scientifiquement, parce qu'on a fait une découverte, je crois, très importante en 1972 à Sanaa, où on a retrouvé des éléments du Coran très ancien.
Oui, c'est ce qu'on appelle
le Coran. Qui ne correspondait pas au Coran d'Ousmane.
Le Coran de Sanaa. Ah oui, c'est-à-dire, ce sont des fragments, hein, ce sont des fragments, donc, extrêmement nombreux du Coran qu'on a pu reconstituer comme une sorte de puzzle, hein, donc, mais qui ne représente pas tout le Coran déjà, mais dont les parties reconstituées montrent effectivement des divergences par rapport à la Vulgate. Mais là aussi, la tradition textuelle islamique parle de la pluralité de ces Corans qui continuent à circuler sur les terres d'islam jusqu'au début du 4e siècle de l'Égire, hein, c'est-à-dire 10e de notre ère, c'est-à-dire pendant plusieurs siècles, plusieurs Corans circulaient sur les terres d'islam, et c'est finalement au 4e siècle de l'Égire que la Vulgate, ce qu'on appelle, pourrait appeler le Coran impérial, hein, le Coran califal, a été imposé à tous les musulmans et que tous les musulmans vont accepter donc ce Coran-là. Mais il y a toujours eu donc parfois des courants religieux qui sont restés réticents à l'égard de ce Coran officiel, par exemple les chiites, hein, qui ont continué pendant des siècles, mais de manière plutôt moins souterraine, de professer ce qu'on appelle la thèse de la falsification du Coran, c'est-à-dire que selon eux, la version officielle n'est pas une version fidèle aux révélations originelles faites à Mahomet.
Alors Ali Amir Moïsi, ce que j'ai découvert aussi en préparant cette rencontre avec vous, c'est que les Corans les plus anciens n'avaient ni ponctuation ni voyelle, et donc sujet à des interprétations différentes ou à des lectures différentes. J'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus.
Oui, c'est-à-dire que ce qui existait avant donc l'invention, en quelque sorte, des points diacritiques et des voyelles, c'était le squelette consonantique, effectivement. Et là, la langue arabe, effectivement, dans son orthographe, sans voyelles et sans points diacritiques, présente beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui peuvent être lus de différentes manières, et donc compris de différentes manières, et donc interprétés. Mais je dirais que cette question n'apporte pas énormément de divergences, hein, dans les lectures, les interprétations. Ce qui apporte des divergences, ce sont effectivement cette question de pluralité des Corans.
Pourquoi est-ce qu'on a gardé tel texte et pourquoi est-ce qu'on a rejeté tel autre texte, en fait? C'est ça la vraie question.
Ça dépend de ce que vous appelez « on ». C'est-à-dire que...
Je dirais « on » Osman. Oui, oui.
Alors, il y a une version officielle.
Osman qui a imposé un Coran et qui l'a distribué dans différents lieux où l'islam s'était répandu, comme étant le Coran définitif.
C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas propre à l'islam, mais les écritures font partie des outils de pouvoir. Donc, l'Empire, pour qu'on le prenne au sérieux, devait avoir sa propre religion, qui va s'appeler islam, très probablement à l'époque de Abdelmalek dont on parlait. Donc, nous sommes à la fin du 1er siècle de l'Égire. Abdelmalek a régné, si je me rappelle bien, en l'ère chrétienne, de 685 à 705. C'est sous son règne que ce nom de islam va être donné comme nom propre à cette religion. Donc l'Empire doit avoir sa propre religion, doit avoir son propre prophète. C'est à cette époque-là, hein, que vraiment Abdelmalek fait promouvoir la figure aussi de Mahomet comme étant le prophète de cette religion.
Et il a besoin d'un livre, si j'imagine. Et il a parce besoin. Que les chrétiens ont un livre et les juifs ont un livre. Donc il fallait que les musulmans aient un livre.
Oui, et avant d'avoir un livre, ils avaient besoin d'avoir une langue. C'est-à-dire ce que fait Abdelmalek également, c'est d'imposer la langue arabe comme la langue administrative de l'Empire, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est-à-dire la langue administrative de l'Empire, c'était soit le grec dans les provinces anciennement byzantines et le moyen perse dans les provinces iraniennes. Donc sa langue, ses lieux saints, c'est-à-dire c'est à partir d'Abdelmalek que la Mecque et Médine vont remplacer, hein, Jérusalem, qui était la ville sainte par excellence.
Ce n'était pas le cas avant. Jérusalem était toujours la ville sainte.
Absolument. Mais elle va le rester, mais elle va devenir la troisième ville sainte de l'islam. Donc, des villes arabes vont devenir des villes saintes. Et effectivement, son livre. Mm-hmm. Et pour avoir son livre, il fallait avoir une version officielle. Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, Abdelmalek a voulu souder la communauté musulmane grâce au Coran?
Et grâce à tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la langue, à la religion, à un même prophète et également à un même livre. Oui, ce que cherchait Abdelmalek, mais avec force et violence, hein, c'était d'unifier l'Empire. Hein. Il a unifié les poids et les mesures, il a unifié la langue, il a unifié l'administration. Et donc, oui, c'est ce qu'il cherchait. Et c'est peut-être aussi ça que l'on voit dans le Coran et qui donne au Coran son aspect un peu décousu et incohérent, hein, c'est-à-dire il suffit de feuilleter le Coran et on voit que dans une même page nous avons 15 thèmes différents, une même histoire est coupée en morceaux et les différents morceaux sont dispersés dans les différentes parties du corpus. C'est peut-être aussi parce que ce qu'a voulu faire Abdelmalek, c'est d'avoir un livre qui est un texte compromis, c'est-à-dire une sorte de mélange des différents Corans qui existaient. Et selon les chiites, ils le disent, et puis la question ça a été posée par les premiers chercheurs qui ont travaillé sur le Coran, peut-être en y supprimant les noms propres des contemporains du prophète. C'est une question qui s'est posée aux spécialistes. Pourquoi, contrairement par exemple aux livres bibliques, hein, que ce soit la Bible juive ou la Bible chrétienne, contrairement à ces corpus qui sont les parents, hein, du Coran, il n'y a mention d'aucun contemporain de Mahomet dans le Coran. Il est lui-même cité 4 ou 5 fois, alors que Abraham, Moïse, d'autres figures bibliques sont citées des centaines de fois. Et pourquoi aucun contemporain, sauf 2 personnages obscurs, bon, hein, peut-être un fils adoptif et son oncle, mais ses grands compagnons, ses amis, sa famille, ses ennemis ne sont pas cités. Donc peut-être en supprimant ces noms, Abdelmalek a voulu également éviter des tensions entre ces gens qui sont en guerre, hein, comme je l'ai dit.
Qui n'ont jamais cessé d'être en guerre depuis les origines.
Oui. Mm-hmm.
Petite parenthèse, Ali Amir Moezi, et là je m'adresse au président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie que vous êtes. Quand des musulmans croyants entendent le fruit de vos travaux, ou quand les grands responsables de l'islam au Caire, en Arabie Saoudite, lisent, et je l'espère, vos travaux de scientifiques, et notamment ce livre monumental que vous avez publié, Le Coran des historiens, comment accueillent-ils ces recherches scientifiques, ces affirmations que vous donnez sur les différents Corans qui ont pris place au sein de l'histoire? Comment est-ce que c'est accueilli, ce travail scientifique?
Je dois dire, dans l'ensemble, assez mal. C'est-à-dire, vous avez parlé, je pense, des milieux religieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire
que El-Azhar, oui. Au Caire, en Égypte, par exemple, qui est un lieu de référence pour l'islam, ou je pense en Arabie Saoudite, les imams des courants wahhabites qui se posent aujourd'hui en référent de l'islam. Comment est-ce qu'ils accueillent vos travaux?
Alors, dans les institutions religieuses, ce genre de travail, même avant moi, hein, les travaux faits par les savants académiques, pas seulement occidentaux, mais même peut-être les savants d'origine musulmane, sont mal accueillis. Pour la raison donc qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire que cette approche historique et philologique des choses de la foi sont perçues comme menaçant la foi. Donc menaçant les fondements de la foi, c'est-à-dire le fait que le Coran est la parole de Dieu, et en plus la parole incréée, hein, selon un dogme qui date du 9e siècle, qui a aussi son histoire, hein, donc, mais les musulmans l'oublient. Ce n'est pas un dogme qui existait depuis le départ. Donc, effectivement, mais dans les milieux, je dirais, intellectuels, dans les milieux lettrés du monde musulman, l'accueil a été extrêmement favorable. Extrêmement favorable, je pense, pour une raison précise. C'est-à-dire que, vous savez, bon, nous sommes peut-être au centre des problèmes actuels. C'est ce qu'on appelle l'islam politique violent, dont les premières victimes, quoi qu'on en dise, sont les musulmans. Bien sûr, nous avons connu ici en Occident des attentats, mais si vous regardez le monde musulman, il y a des guerres maintenant qui vont du Nigeria jusqu'en Afghanistan et au-delà, des pays entiers qui n'existent plus dans l'indifférence la plus totale, la Syrie n'existe plus, le Yémen n'existe plus, l'Irak pratiquement pas, la Libye. Et donc, ça, si vous voulez, bien sûr, il y a des raisons géopolitiques liées aux grandes puissances, aux marchands d'armes, aux milieux financiers, mais également, c'est que il y a des mouvements à l'intérieur de l'islam qui instrumentalisent des textes religieux, mais qui quand même s'appuient sur des textes religieux pour donc leurs exactions et de pratiquer la violence. Et donc là, les premières victimes sont les musulmans. Et donc, arrive ce que j'ai appelé l'apprentissage par la souffrance. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de musulmans dans les milieux de journalistes, de lettrés, d'intellectuels, d'universitaires, qui disent que maintenant, c'est assez, on ne peut pas dire que nos problèmes viennent exclusivement du colonialisme, de l'impérialisme, du sionisme. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre propre tradition, et plus encore dans le regard que nous avons.
Mais les personnes qui disent cela risquent leur vie.
Oui.
Sont menacées.
Oui, mais quand même, il y a des gens qui le disent de plus en plus, et qui l'écrivent, peut-être avec des rhétoriques et avec des formulations qui passent quand même, et qui disent qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose, une évolution à envisager dans le regard que nous avons vers notre propre tradition. Et pour ces gens-là, des travaux scientifiques, comme le Coran des historiens, ils me l'ont dit, j'en ai des dizaines et des dizaines, voire des centaines de témoignages, c'est une aide, c'est un soutien, c'est une respiration. C'est-à-dire, nous avons maintenant des outils d'approche, de méthode, qui sont des outils qui sont respectueux de l'objet, c'est-à-dire de la religion, mais en même temps suffisamment distanciés pour avoir donc un regard plus froid, moins fanatique vers la tradition.
Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les référents de l'islam, alors il n'y a pas comme dans le catholicisme toute cette hiérarchie avec le pape, les cardinaux, les évêques, mais il y a quand même des hommes qui sont des référents pour l'islam, dans les grandes religions. Je pense, encore une fois, je reparle de Al-Azhar au Caire, le cher d'Al-Azhar est une référence. Comment accueille-t-il vos travaux? Est-ce qu'il les encourage? Ou est-ce qu'il dit non, ces travaux sont dangereux pour notre foi et ils ne correspondent pas à notre croyance?
C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils considèrent vraiment que ce genre de travail est une menace, parce que ça met en question un certain nombre de traditions et de dogmes.
Même si vous leur amenez des preuves scientifiques, claires, précises.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, la scientificité de ces données ne sont pas acceptées par eux. Ils ont peut-être une autre définition de la science. C'est pour ça que je disais que ces méthodes-là, qui sont issues quand même d'une tradition occidentale, ne sont pas acceptées par ces gens-là, d'autant plus que, c'est-à-dire, ils disent que ce sont des méthodes aussi qui ont été utilisées par le colonialisme, etc., pour soumettre nos peuples, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire, il y a eu quand même des orientalistes, aussi bien des islamisants que des spécialistes de l'Inde ou des pays africains, qui ont eu une approche colonialiste, mais il reste quand même extrêmement rare.
Mais alors, c'est pour ça que c'est urgent que ce soit des musulmans eux-mêmes qui s'engagent dans ces travaux.
Je pense, mais il faut savoir aussi une chose. Vous avez parlé des référents. Dans l'islam, dans la longue culture longue et riche culture de l'islam, il y a d'autres référents, il y a d'autres modèles, hein, heureusement. Et justement, parmi les grandes figures de la culture islamique, il y a des gens qui ont quelque part apporté peut-être une réponse à cette question de tension, hein, à cette question, c'est-à-dire entre l'approche scientifique et l'approche confessante. Je parle à deux personnes, par exemple le grand mystique Ibn Arabi, hein, qui est un des plus grands mystiques, qui est appelé le plus grand maître dans la mystique musulmane, et puis le grand théologien Razali. Ces deux personnes, de manière différente, font une distinction entre la foi et la croyance. La foi, iman, en arabe, et la croyance, aqida, en arabe. Et ils disent que la foi concerne des choses essentielles. Ça vient du cœur, c'est quelque chose de mystérieux qui ressemble à l'amour, on ne sait pas d'où il vient. Et ça concerne des choses absolument essentielles. La croyance concerne des choses beaucoup plus accessoires et elle dépend de notre milieu, de notre éducation, de nos parents, de notre société, de notre culture. Et il y a des croyances qui polluent la foi. Et parfois, pour atteindre la pureté de la foi, il faut se débarrasser d'un certain nombre de croyances. Moi, je pense que l'approche historiocritique ne touche pas la foi.
Elle ne menace pas la foi.
Elle ne menace pas la foi. Elle ne concerne pas la foi. Mais elle sert justement, peut-être, à faire le tri entre ce qui est essentiel et qui relève de la foi et ce qui est accessoire et qui relève de la croyance. Donc, elle peut mettre en question un certain nombre de croyances pour les fidèles, je veux dire pour les musulmans, mais peut-être la mise en question de ces croyances peut consolider leur foi. Donc, en quelque sorte, peut-être, en voyant les choses autrement, c'est-à-dire en changeant nos lunettes, et en essayant de voir les choses calmement, et non pas de manière un peu émotionnelle ou fanatique, on peut se rendre compte que l'approche historique et critique et philologique peut même consolider la foi en mettant en question un certain nombre de croyances. Parce que pour, en quelque sorte, en historicisant les Écritures, c'est-à-dire ce qui relève des hommes, comme le disait quelque part Spinoza, l'approche historique déshistorise Dieu. Il place Dieu au-dessus de ces choses-là. Et on se rend compte que moi, je parle pour un croyant. Donc, c'est-à-dire que si on considère que Dieu s'adresse aux hommes, donc il s'adresse comment? C'est-à-dire, ou bien on considère qu'il a un message collectif qui doit gérer la société, et donc ce Dieu doit avoir des représentants sur Terre. Mais de cette manière-là, soit vous politisez Dieu, soit vous divinisez le pouvoir. Ce qui est, tous les deux, menace la foi. Mais si vous considérez que Dieu s'adresse aux hommes dans leur intimité, dans leur cœur, et donc là, il ne s'agit pas d'avoir des représentants de Dieu, mais de servir Dieu sur terre, et servir Dieu sur terre, soit sur le plan intime, c'est la piété, et sur le plan collectif, c'est servir son prochain. C'est-à-dire avoir la bonté et la justice, qui est fondée sur quelque chose de très simple, hein, sur l'éthique. Et qu'est-ce que dit l'éthique depuis le sage Hillel? Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est aussi simple que ça.
Thank you.
Ali Amir Moezi, j'aimerais qu'on poursuive sur ce que vous venez d'évoquer, et notamment sur cette politisation de Dieu. On a l'impression qu'il y a un rapport très intime entre le politique et la religion dans l'islam. Quand on regarde votre pays de naissance, l'Iran, c'est évident, on a affaire à des mollahs qui sont à la fois les représentants de Dieu sur terre et qui sont les garants du système politique de leur pays. C'est le rêve de beaucoup de musulmans de créer un califat où ce sera l'islam qui dirigera la politique de leur pays. On parle depuis un moment d'un travail scientifique nécessaire, historico-critique. Est-ce qu'il n'y a pas également un rapport de séparation de, je ne vais pas dire de l'Église et du pouvoir, mais de l'islam et du pouvoir?
Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que dans l'islam, il n'y a pas une nette distinction entre le temporel et le spirituel.
Les origines, quand on lit vraiment...
Ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas plus obscur que les origines de l'islam. C'est-à-dire, quand je dis origine, je parle de Mahomet lui-même et de son entourage. Ce qu'on sait de absolument sûr, c'est-à-dire pour un historien sur Mahomet, si on veut le mettre par écrit, ça ne dépasse pas une page. Alors que, comme vous le savez, la biographie officielle, c'est-à-dire canonique du prophète, fait des centaines de pages et ça donne l'impression qu'on connaissait la vie du prophète pratiquement minute par minute. Mais tout cela a été démontré. Ce sont des récits donc fabriqués bien après le temps du prophète et selon les optiques des différentes factions qui étaient en plus en guerre les unes contre les autres.
Mais on a l'impression justement que dès qu'il y a eu question de succession du prophète Mohammed, c'était l'étroit rapport entre le pouvoir et le religieux.
C'est effectivement le cas à cause des événements dont j'ai parlé, c'est-à-dire les guerres civiles, les conquêtes et la naissance de l'Empire. Donc le politique intervient
immédiatement,
très tôt, immédiatement, et peut-être même dans la vie du prophète. Quand on parle de ces guerres, donc le politique est là. Mais l'évolution, je dirais, juridiste de l'islam est une évolution historique et qui n'est pas acceptée par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers parmi les musulmans qui n'ont pas cette vision-là des choses. Quelque chose qui est extrêmement populaire en islam et dont on parle peu parce qu'il s'agit probablement de la majorité silencieuse, c'est la mystique, c'est le soufisme. Le soufisme, donc organisé en confrérie, en ordre, et qui est extrêmement populaire, c'est-à-dire le nombre des gens qui sont affiliés à l'un ou l'autre ordre soufi en islam se compte par centaines de millions.
Mais est critiqué par, je dirais, les institutions dominantes de l'islam.
Oui, depuis toujours.
Et voire persécutés même. Ils sont persécutés, les soufis.
Pas persécutés. Alors, pourquoi? Parce que ce qui est en cause, c'est l'autorité spirituelle. Qui est-ce qui doit détenir l'autorité spirituelle? Alors, ce qui s'est passé aussi bien dans l'islam sunnite, dès le départ, où il n'y a pas un clergé, mais il y a quand même des clercs dans le sens technique du terme, c'est-à-dire des gestionnaires du religieux, et puis dans le chiisme depuis le XVIe siècle, la constitution d'une véritable hiérarchie cléricale, c'est que ces gens-là, en quelque sorte, en s'appuyant sur le pouvoir, très souvent le pouvoir politique, se sont autoproclamés des représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire pour des questions très banales de domination, de pouvoir et de richesse. Et donc, là, nous avons affaire à une chose extrêmement simple, c'est-à-dire l'instrumentalisation du religieux par le pouvoir politique. Mais les choses, on peut s'appuyer également sur un certain nombre de traditions existantes dans l'islam pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans les textes. Et que, effectivement, il faut avoir également, je veux dire, le jugement rationnel des choses, dans quelle mesure ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la politisation de Dieu ou la divinisation du pouvoir, parce qu'il s'agit tout simplement de ça, peut être conciliée avec la véritable foi. Ou bien, est-ce que ces notions-là qui sont intimement liées, de considérer véritablement Dieu comme une sorte de pouvoir politique, ou bien considérer le pouvoir politique qui se dit investi par Dieu, n'est pas en contradiction avec la véritable foi.
Vous êtes confiant, Ali Amir Moezi, pour l'avenir, ou vous êtes inquiet, sincèrement? Parce que vous consacrez votre vie. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à travailler sur ces recherches scientifiques importantes sur l'islam. Vous êtes un homme de paix. Vous aspirez à la paix, je le sais. Mais est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir ou inquiet quand vous regardez, je dirais, le monde islamique au sens large? Aussi bien votre pays d'origine, l'Iran, que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et autres pays.
Je crois que la tragédie de l'histoire d'une manière générale et de l'actualité en particulier ne nous laisse pas le choix. Nous devons être confiants. Camus disait, là où l'espoir n'existe pas, il faut le créer. Je le crois profondément.
Et vos travaux participent à cela ? Si des jeunes nous écoutent en ce moment, vous avez envie de les inviter à s'engager dans ce travail. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent donner du sens à leur vie. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver vraiment du sens à sa vie, à s'engager dans ce type de travaux scientifiques qui ont l'air austères vu de l'extérieur pour travailler sur ces textes coraniques, sur l'origine du Coran ?
Écoutez, je l'espère, si mon travail et ceux de mes collègues peuvent être utiles à la promotion de la paix et du vivre ensemble, hein, paisible, je l'espère. En même temps, je ne suis pas un homme politique, hein, j'espère être un scientifique et un chercheur. Maintenant, il est vrai que maintenant, travailler sur l'islam, en particulier sur les fondements de l'islam, est en soi une action politique, qu'on le veuille ou pas. Donc, effectivement, j'espère que un travail, puisque, si vous voulez, là aussi, je m'appuie sur peut-être mes connaissances historiques. Ce qui s'est passé en Occident, c'est-à-dire l'acceptation sociale de la méthode historique, finalement, une des conséquences a été quoi ? Justement, la séparation du temporel et du spirituel.
Mais certains vont vous dire, ça a été la déchristianisation. Donc, regardez, ces travaux scientifiques ont entraîné la perte de la foi.
Peut-être pendant un certain temps, mais je pense que l'histoire montre que les chrétiens croyants ont compris que finalement on peut accepter cette méthode historique, mais en gardant la foi. Si vous regardez par exemple la vie de Jésus écrite par Benoît XVI, alors bien sûr c'est un pape qui écrit, mais je veux dire parfois les historiens peuvent être jaloux hein, de cet écrit, tant je veux dire, la méthode historique y est présente. Donc, ça veut dire, si un pape écrit quand même, selon des méthodes historiques, ça veut dire que la chose est intégrée et est acceptée sans que la foi soit menacée. Donc, l'absence ou la négation de la religion n'est pas une conséquence nécessaire de la méthode historique. Au contraire, comme je l'ai dit, la méthode historique peut-être même consolider la foi en mettant en question un certain nombre de croyances.
Ali Amir Mouazi, merci beaucoup vraiment
merci
d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice difficile d'essayer de nous présenter les origines du Coran, de l'islam en une heure. Je renvoie à tous ceux qui aimeraient approfondir ces questions-là à l'un de vos livres, L'histoire du Coran, que vous avez publié aux éditions du CERF. C'est la synthèse du monumental travail que vous avez réalisé avec d'autres
oui,
scientifiques
du Coran. C'est un ouvrage collectif, bien sûr, que j'ai co-dirigé avec Guillaume Di.
L'histoire du Coran aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'être venu au micro de RCF.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique, Nathan Faure.